Nous allons, chers amis, donc nous plonger de nouveau dans ce récit que nous avons lu. Et je vous demande donc de prier avec moi avant d'aller plus loin. Mais peut-être vous trouverez cela utile d'avoir le texte sous les yeux. Et vous allez voir également dans le livret, il y a le plan de ce qu'on essaye de couvrir ensemble. Donc je vous invite à prier avec moi. Merci, nous voulons te remercier, Seigneur, pour Jésus-Christ, Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Aidons-nous de nous approcher de Jésus-Christ une fois de plus ce matin. Aidons-nous de contempler à travers cette histoire de Joseph la gloire de Jésus. Aidons-nous d'être des disciples de Jésus, ceux qui mettent Jésus-Christ et sa gloire avant toute autre chose. Au nom précieux de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, nous allons commencer avec la politique écossaise. J'imagine que vous en connaissez beaucoup, sans doute. D'après un livre qui vient de sortir, qui trace la division au sein du parti SNP, donc les nationalistes écossais, suite aux accusations de harcèlement sexuel de la part d'Alex Salmond, l'ex-premier ministre de l'Écosse, un haut responsable du membre de ce parti SNP, a dit ceci aux journalistes qui ont écrit ce livre qui vient de sortir. « Je me suis demandé, est-ce que j'ai été aveugle ?» Nous parlons ici des gens dont certains sont des amis proches à moi, qui ont depuis lors raconté des choses au sujet de comportements dont ils ont fait l'objet, qui m'ont horrifié et dont je n'étais pas conscient à l'époque. Est-ce que je me sens coupable par rapport à ça? Bien sûr que si. Est-ce que je me pose la question de savoir si je suis à blâmer ou pas? Bien sûr que si. Ce sont mes amis, après tout. Mais cela dit, pourquoi avons-nous toléré cela, le harcèlement et l'être ignoble qu'il était, Alex Salmond, dans le but de remporter le prix. Dans le but de remporter le prix. Quel prix? Maintenant, c'est moi qui parle. Le prix, dans ce contexte politique à ce moment-là, c'est du pouvoir. De dire que cet homme qui incarnait l'espérance nationaliste en Écosse est tout simplement trop important pour qu'on le lâche pour cause de menaces sexuelles. C'est une forme, n'est-ce pas, de la fin qui justifie les moyens. Parce qu'ils voulaient réussir, ils sont peinés maintenant de réaliser, après coup, qu'ils ont, par négligence délibérée dans certains instants, laisser souffrir de nombreuses femmes. Cela donne soif, je l'espère, pour des gens concernés pour la justice, des gens qui ne mettent pas leur intérêt en premier, mais l'intérêt des autres, des gens qui savent se contrôler, savent honorer les autres, qui n'ont pas peur de faire ce qui est juste, même si nous risquons de nous accuser d'être un fauteur de troubles. Et cela nous mène, j'espère que vous voyez le lien, à Joseph. Joseph, fils de Jacob, abandonné, nous l'avons déjà vu par ses frères au chapitre 37, vendu en esclavage par ses mêmes frères. Et nous retrouvons donc Joseph au début de ce chapitre 39 de la Genèse, après le chapitre 38 où on suivait les crétineries de son frère Judas. Où se trouve-t-il alors maintenant Joseph? Le texte le souligne trois fois dans les deux premiers versets. En Égypte, au service d'un Égyptien, loin donc du pays promis par Dieu à Abraham, son arrière-grand-père. Qu'est-ce qui lui arrivera-t-il en Égypte? C'est le sujet des 6 ou 7 chapitres encore à venir dans ce livre de la Genèse. Mais au chapitre 39, nous avons un portrait de cet homme, Joseph, un homme, il faut le dire, un homme d'exception. Je souligne alors avec vous, vous voyez ça sur le livret, 3 aspects de cet homme, Joseph, 3 traits de caractère, si vous voulez, qui sont clairement exposés à travers cette histoire. On ne peut pas les rater, je pense. D'abord, Joseph, un homme béni, car le Seigneur est avec lui. Dès qu'il se met à travailler pour ce Potiphar, chef des gardes, verset 2, la réussite l'accompagna. Son maître, verset 3, vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Du coup, il accumule petit à petit, à travers des années bien entendu, des promotions. Il devient responsable de la maison de ce Potiphar, de tous ses biens. Joseph est donc un homme de confiance qui travaille correctement chez Potiphar, qui veut le bien de son maître et de sa maison. L'Éternel, verset 5, bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. La bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens. Et nous remarquons la même chose à la fin du même chapitre, n'est-ce pas ? Après l'injustice dont Joseph subissait de la part de la femme de Potiphar, après avoir été placé en prison, quelle est la première chose que Moïse, l'auteur de ce livre de la Genèse, souligne une fois que Joseph arrive en prison ? Verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph et entendit sa bonté sur lui. » Conséquence, il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Et donc, même là, en prison, à la fin de ce chapitre, non seulement esclave, mais maintenant esclave emprisonné, disgracié, que lui arrive-t-il ? Le Seigneur lui accorde sa grâce, sa faveur, sa bonté. Et une nouvelle fois, le chef de la prison confie à Joseph beaucoup de responsabilités. Sûrement, oui, Joseph était un administrateur très doué. Ça, on le verra plus tard dans le livre de la Genèse. Mais le texte ici ne nous laisse pas de doute quant à la source de la réussite de Joseph. Verset 23, le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Donc, Joseph, un homme béni, car le Seigneur est avec lui. Deuxièmement, Joseph, un homme de justice, car il fait confiance au Seigneur. Oui, le verset 6 fait la transition vers la partie suivante du récit, en nous signalant que Joseph, comme sa mère, Rachel, était beau à tout point de vue. Pas de grande surprise alors que la femme de Potiphar, qui passait du temps avec Joseph dans la maison, portait les yeux sur lui. Le danger pour Joseph de céder aux avances de cette femme, très déterminée, sont très très grands, ces enjeux pour lui. Elle est puissante, elle est libre, elle a des moyens, elle est directe. Vous voyez ça dans le texte. Première chose qu'elle dit à Joseph, « Couche avec moi », elle propose au verset 7. Elle est persistante, verset 10. Elle parlait tous les jours à Joseph, et cela malgré ses objections. Ensuite, elle est aussi opportuniste, verset 11. Il se trouva deux, seul, dans la maison. Et donc, elle l'attrape par son habit en disant une nouvelle fois, « Couche avec moi. » Joseph, il aurait pu le faire, bien entendu. Il a l'opportunité. Il est là au bon moment lorsque personne d'autre y soit, personne ne le voit alors. Il a des moyens, il gérait, lui, la maison. Mais qu'est-ce qui lui manque? La motivation. Bon, ce n'est pas que la motivation, dans un sens, n'y est pas. Après tout, c'est un homme avec une femme désireuse devant ses yeux. Mais c'est ce qu'il a bien réfléchi quant à sa motivation ultime dans la vie. Si elle parle très peu dans ce récit, vous voyez cela, elle reste anonyme d'ailleurs. Elle joue comme toute immoralité sexuelle sur l'objectification, j'oublie comment on dit le mot, de la personne. Elle rend la personne un objet plutôt qu'une personne. Mais lui, Joseph, il parle, il réfléchit. Verset 8. Ce serait de trahir son maître qui lui a confié tous ses biens. Et lui n'a rien interdit, sauf elle. Et donc, fin du verset 9, « Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Au lieu d'être dicté comme un animal par les médias, par son instinct, par son sexe, Joseph réfléchit. Et en ce faisant, trouve le contrôle de soi. Lorsqu'elle l'attrape, il fuit, car il a déjà pesé par avant les conséquences si lui, il restait sur place. Il fuit, oui, mais le fait de fuir, c'est le fruit d'une foi réfléchie. Le fait de fuir, c'est le fruit d'une foi réfléchie. Alors maintenant, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, rappelons-nous de Judas, son frère, au chapitre 38. Il y a un contraste. Judas qui se couche avec sa belle-fille Tamar, qui condamne Tamar, non pas parce qu'elle a commis l'immoralité sexuelle, mais parce que cette immoralité sexuelle a été découverte, une immoralité, bien entendu, dont il participait. Donc, nous avons affaire à Judas, qui est un homme plus concerné pour sa réputation que pour ses principes. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui, ce problème-là? J'ai été frappé cette semaine d'entendre Gino Roussa, qui avait été invité dans Déclic sur l'RTBF, peut-être vous connaissez cette émission, 25 ans après la découverte du corps sans vie de sa fille Mélissa et de sa copine Julie Lejeune. Il a fait part d'une colère qui vit toujours en lui aujourd'hui par rapport à certains dysfonctionnements de la Belgique et par rapport aux injustices qui demeurent. Malgré le temps écoulé, malgré les commissions d'enquête, les réformes, Gino Roussa estime que sur le fond, certaines choses n'ont pas changé. À certains égards, je cite, la situation a même empiré, je pense. On est trop dans la communication et pas assez dans les actes. Le discours ne tient plus avec la réalité. Et ça, le citoyen s'en rend compte de plus en plus. Nous voyons en quelque sorte Judas, il vit encore, trop concerné par la communication, pas assez dans les actes. Mais Joseph, quant à lui, est plus concerné par ses principes que par sa réputation, par les actes plutôt que la communication. Sa réputation est de nouveau en ruine à la fin de ce chapitre. Il se trouve en prison, mais ses principes tiennent bon. C'est un homme juste. Joseph ici est mis en contraste non seulement avec Judas, mais aussi avec le premier homme du livre de la Genèse, Adam. Adam, rappelons-nous, lui, écoutait une femme aussi, était influencé par ce qu'elle lui a dit. Lui, au lieu de profiter de tous les arbres du jardin, sauf un, se focalisait sur la seule chose qui lui était interdite. Pas Joseph. Que dit Joseph ? Ce serait de trahir son maître qui lui a confié tous ses biens et ne lui a rien interdit, sauf elle. Sûrement Joseph, donc, savait que cette femme pouvait le dénoncer par la suite. Tout le progrès qu'il a pu faire ces dernières années s'écroulera s'il va à l'encontre de la volonté de cette femme. Mais malgré cela, il fait confiance à Dieu. Il ne cède pas à la tentation. Joseph, donc, un homme de justice qui fait confiance au Seigneur. Troisièmement, Joseph, un homme de souffrance qui sera le roi établi par Dieu. Après son refus vient sa dénonciation injuste de la part de cette femme qui retourne la justice de Joseph sur lui, comme quoi le habit que Joseph avait laissé dans les mains de la femme de Potiphar devient la preuve, laissée à côté d'elle, des tentatives de Joseph de violer cette femme. Que peut-il faire ? Que peut-il dire, Joseph ? Bon, c'est la parole d'un esclave étranger. Et la femme met un accent bien prononcé sur ses origines, n'est-ce pas ? Verset 14, « Il nous a amené un hébreu. » Verset 17, « L'esclave hébreu que tu nous as amené. » Il ne pouvait rien faire. Il est coincé. Au chapitre 37, sa veste, rappelons-nous, tachée de sang, avait été présentée aussi de façon trompeuse à son père comme preuve de sa mort. Ici, une nouvelle fois, un habit est offert comme preuve mensongère d'un acte qu'il n'a pas commis. La réaction de Potiphar, il est en colère à la fin du verset 19. Mais je pense qu'il y a suffisamment d'ambiguïté ici pour croire que la colère est aussi en partie car Potiphar se sent lui aussi coincé. Son ouvrier le plus performant, le plus fiable, accusé par sa femme et personne d'autre l'a vu. Ensuite, sa femme qui fait croire que la faute est celle de Potiphar, l'esclave hébreu que tu nous as amené. Est-ce pour cela que Joseph est emprisonné plutôt que condamné à mort? On ne sait pas. Mais le voici, Joseph, emprisonné, exploité, un homme donc de souffrance. Pour la deuxième fois. Bien sûr, nous savons la suite de l'histoire, le rôle clé qu'il jouera dans la délivrance d'Israël. Mais Joseph, pour le moment, il ne sait pas cela. Il ne sait pas que son Dieu... Mais il sait que son Dieu est fidèle. Et donc, il lui fait confiance. Et le récit donc nous donne un tout petit indice à la fin par rapport à son avenir. Car non seulement nous voyons Joseph béni par Dieu lorsqu'il est en prison, mais nous notons également que la prison dans laquelle il est, verset 20, c'est l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Oui, donc déjà, il est catégorisé comme quelqu'un d'important, quelqu'un mis à part. Et nous le savons, par la suite, Joseph, il deviendra un tel personnage, il gouvernera comme un roi tout le pays d'Égypte. Mais cela n'est pas pour aujourd'hui, cela c'est pour plus tard. Mais c'est grâce à cette descente en prison que Joseph aura une audience plus tard devant le Pharaon. Comme un commentateur l'a remarqué, plus Joseph descend dans l'échelle sociale, plus il se rapproche du trône. Et avec cela, nous arrêtons, si vous voulez bien, à notre première application. Vous voyez ça sur le livret, n'est-ce pas ? Un homme qui nous encourage à nous confier en Jésus. Parce que j'espère que vous voyez que ces trois traits de cet homme, Joseph, ressemblent fort à un autre homme. Un homme béni par Dieu, car le Seigneur est avec lui. Un homme juste, qui faisait confiance en Dieu. Un homme de souffrance, qui a traversé sa souffrance et rapproché du trône que le Seigneur lui a réservé. Oui, voyons en Joseph un exemple pour nous, certes, on y arrivera, mais avant cela, voyons en Joseph un modèle de la descendance d'Ève, promise, cette descendance, après la chute, qui écrasera la tête du serpent. Dès sa jeunesse, les auteurs des évangiles remarquent que l'enfant grandissait et devenait fort. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Lorsque Satan l'avait mis à l'épreuve pendant 40 jours, il avait bien réfléchi et il lui disait, « L'homme ne vivra de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et lorsque Satan lui promet un standing élevé dans la société, une autorité immense, mais sous condition qu'il se prosterne devant lui, il lui rétorque, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Plus tard, cet homme il sera rejeté, méprisé par des hommes, traité de façon injuste, comme un criminel, condamné à mort, pendu au bois à côté de deux autres bandits dont l'un reconnaissait sa justice. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit de lui, de Jésus-Christ, « Nous voyons celui qui a été fait un peu inférieur aux anges, Jésus, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Jésus, le nouvel Adam, est celui en qui toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Jésus, obéissant jusqu'au prix de sa propre vie. » Oui, Joseph nous encourage alors à nous confier en Jésus, ce roi établi par Dieu. Dieu, dans sa providence, a fait exprès que le parcours de Joseph ressemble fort à celui de Jésus. Pour que, encore aujourd'hui, ceux et celles, ici dans cette pièce, se tournent vers Jésus. Les apparences, vous voyez, sont parfois trompeuses. Jésus crucifié n'a pas l'air puissant. Non, il a l'air comme Joseph, impuissant. Mais c'est justement à travers son abaissement qu'il se rapproche de son trône. Jésus, lui, qui est mort, bien que juste, afin que nous, les injustes, soient amenés à Dieu. Est-ce que vous voyez Jésus ainsi? Ou Jésus est-il simplement un exemple pour vous, plutôt qu'un sauveur pour vous, plutôt que le roi serviteur que Dieu a souverainement élevé pour régner? Jésus était-il juste, lui? Oui. Et la première chose pour nous à faire, ce n'est pas de dire, « Ah, ok, donc moi, je dois essayer d'être juste comme Joseph et comme Jésus. » Non, la première chose, c'est de se réjouir que cet homme, Jésus, qui est juste, se donne sur une croix pour rendre les pécheurs, comme Judas, comme vous et moi, justes. Confions-nous en Jésus-Christ, chers amis. Alors d'abord, Joseph, un homme qui nous encourage à nous confier en Jésus. Est-ce que vous avez fait cela? Est-ce que vous êtes prêt à fléchir le genou? et dire à Jésus-Christ, j'ai besoin de ce que tu m'offres. J'ai besoin de ce pardon qui vient de ta part, de cette grâce, parce que tu es cet homme de souffrance qui est par la suite établi le roi par Dieu. Deuxième application. Ensuite, Joseph, c'est un homme qui nous encourage à suivre Jésus, bien entendu. Car en tant que disciples de Jésus, nous sommes ordonnés de suivre Jésus, de lui donner notre vie au prix de nos propres désirs, au prix même de notre propre vie. Et Joseph, je pense, il nous encourage à faire cela de trois façons. D'abord, de par nos convictions. Nous avons remarqué que ce qui permet à Joseph de tenir ferme face aux avances de la femme de Potiphar, c'est bien ses convictions profondes, déjà bien établies, bien ancrées dans le Seigneur, qui lui permet de tenir ferme lorsque tout autour de lui crie bah, « Vas-y Joseph, cède !» C'est extrêmement dur de ne pas céder à la tentation si au préalable, nous ne sommes pas résolus de ne pas céder. Se trouver dans un champ de bataille sans être 100% convaincu qu'il faut se battre, alors nous sommes à ce moment-là à la proie de celui qui tirera le premier sur nous. C'est sûr cela. Se mettre dans une situation où il y aura de la tentation sans être préparé pour la bataille, c'est simplement naïf de notre part. Le cœur humain, nous avons lu en Jérémie encore cette semaine-ci, est tortueux à tous égards. Il faut se battre contre notre cœur, même un cœur dans lequel l'Esprit de Dieu demeure. Que faut-il, chers amis, pour que les mariages dans cette salle continuent à fonctionner bien après que les premières années d'un amour romantique commencent à se dissiper? Comment trouver la potion magique pour tenir ferme contre toutes les tentations qui s'y trouvent? Comment ne pas tomber dans le piège de dire, je ne sais pas, après 5 ans ou après 15 ans ou après 30 ans, qu'il n'y ait plus de carburant dans le moteur, si vous voulez, que depuis trop de temps nous roulons à vide, et que l'amour n'y est plus parce que X ou Y a changé, parce que ce qu'on a dû vivre, bon, on n'avait pas imaginé cela nous a secoué tellement que maintenant chacun doit poursuivre sa propre voie. Comment tenir ferme contre de telles tentations? C'est la conviction profonde que je veux honorer ma parole devant Dieu, devant les hommes. C'est de ne pas laisser germer l'idée en moi que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est de savoir que peu importe nos difficultés du moment, Dieu, il reste digne de ma confiance. Pour tenir ferme lors de la tentation, il faut nourrir nos convictions, chers amis. Il ne suffit pas de chauffer juste nos chaises ici le dimanche matin, même si maintenant la chaise se trouve à l'intérieur. Il faut chauffer aussi le cerveau. Voilà pourquoi la parole a sa place primordiale parmi nous. Pour que nos convictions soient ancrées en nous avant de devoir faire face à la tentation. Le but de notre rassemblement, c'est quoi? C'est l'édification. Oui, nous glorifions Dieu dans toute notre vie, dans tout ce que nous faisons. Mais la raison pour laquelle on se rassemble, c'est pour que nous soyons édifiés pour pouvoir glorifier Dieu. Cela est nécessaire à tout stade de la vie. Mais est-ce que je peux permettre juste un mot à ceux qui peut-être viennent de terminer à l'école de dimanche. Je me suis dit, début d'année, on a toujours quelques enfants qui ont terminé à l'école de dimanche, qui tout d'un coup se trouvent avec nous, soi-disant les adultes. Et souvent, là, il y a un moment un peu de déclic. Ah, ben maintenant, il n'y a plus rien pour moi. Et j'aimerais vous dire que si ce que nous faisons ici le dimanche matin, c'est pour vous, les amis. Vous entrez dans une période où vos connaissances à l'école secondaire vont accélérer en maths, en sciences, en langue et ainsi de suite. Et nous voulons que vous accordiez également du temps pour également progresser en vos convictions profondes par rapport à la foi. Car vous entrez dans cette période, vous êtes également de plus en plus confronté aux tentations dans ce monde, telles que Joseph, lui, devait affronter. Pour tenir ferme, il va falloir des convictions, non pas juste de l'âge de votre enfance. Ah, Dieu, il m'aime et je chante un petit chant. Mais maintenant, des convictions qui deviennent adultes, profondes, conséquentes pour que vous preniez la bonne décision. Un homme qui nous encourage à suivre Jésus de par nos convictions. Alors, deuxièmement, bien entendu, de par notre pureté. Jamais avons-nous vécu à une époque où l'impureté et l'immoralité sexuelle soient aussi disponibles et accessibles par tout le monde. Que nous soyons hommes, femmes, adultes, enfants. Résister ou fuir l'immoralité sexuelle, cela par l'Esprit de Dieu qui œuvre en nous, est super important. Pourtant, selon les statistiques, quasi chaque homme ici présent aurait eu affaire à la pornographie à un moment donné, non seulement dans sa vie tout entière, mais à un moment donné dans ses derniers mois écoulés. Comment nous conseiller dans ce cas de figure? Ben, nous trouvons bien sûr en Joseph un exemple de quelqu'un qui, ce que disent les proverbes, « Éloigne d'elle ton chemin, ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ton honneur à d'autres. » Proverbe 5, versets 8 à 9. Lorsque la femme de Potiphar l'attrape, il fuit. Et il faut fuir, parfois. Dans certaines situations, cela signifie d'éteindre notre écran. Même de nous débarrasser de notre écran, si cela est pour nous une occasion de chute. Faire en sorte que tous les filtres soient mis en place, au lieu de s'approcher au plus proche de la tentation. Non, nous prions de notre Père, nous disons, éloigne-nous de la tentation. Mais le péché n'est pas bloqué si on arrive à contrôler certains facteurs externes. Car d'où viennent les mauvaises pensées, selon Jésus? Les mauvaises pensées ne viennent pas de notre écran. Les mauvaises pensées viennent de notre cœur. Joseph, donc, savait que c'est sa théologie, ce qu'il croit par rapport à Dieu, sa façon d'avoir bien réfléchi, qui avait dicté ensuite son comportement. Et cela faisait qu'il cherchait à tenir ferme lors de la tentation sexuelle, qu'il ne pouvait pas éviter. On ne peut pas faire court-circuit ici, chers amis. Il faut être convaincu que oui, en tant que disciple de Jésus, que Dieu, 1 Thessaloniciens 4, verset 7, ne nous a pas appelés pour l'impureté, mais dans la sainteté. La sainteté, c'est sa volonté pour nous. Paul dit aux Thessaloniciens que vous avez appris de lui, de Paul, comment vous devez vous comporter pour plaire à Dieu. Mais qu'ils doivent, ces Thessaloniciens, encore progresser. Oh, c'est encourageant ce mot-là. Nous devons aussi encore progresser dans la sainteté. Si vous luttez
Sachez, chers amis, que vous n'êtes pas seuls. Nous luttons tous dans ces domaines. Et il y a de l'aide lorsqu'en confidence, on parle à quelqu'un. Nous ne sommes pas condamnés parce que ça ne se dit pas. Nous nous sommes aidés d'apprendre que oui, je suis un apprenti, je fais du progrès, j'apprends comment marcher dans la sainteté. Joseph donc, qui nous encourage à suivre Jésus de par notre pureté. Et dernièrement, de par notre foi. Joseph a choisi le chemin de l'obéissance et cela lui a coûté très cher. Il ne savait pas ce qui était devant lui. Oui, il avait le souvenir de ses rêves d'il y a longtemps, là maintenant, lorsqu'il était jeune. Il aurait entendu aussi parler des promesses de Dieu pour la descendance de son arrière-grand-père, Abraham. Mais comment lui, qui se trouvait en prison en Égypte, comment lui, il avait sa place dans tout ce plan-là? Il ne le savait pas. Aux yeux du monde, Joseph est nulle part à la fin de ce chapitre. Aux yeux du monde, au milieu du chapitre 38, Judas, pendant cette même période, on pense que Joseph se trouve en Égypte dans la maison de Potiphar, Judas, lorsqu'il était père de trois fils, beau-père de Tamar, tout allait bien. Et s'il était question de choisir à ce moment-là entre Judas et Joseph, lequel auriez-vous préféré? C'est clair qu'on dirait Judas plutôt que Joseph. Mais Joseph, vous voyez, marchait par la foi et non pas par la vue. Nous sommes invités à faire de même. Et par moments, c'est difficile cela, dans la foi chrétienne. On ne voit pas comment ce que Dieu demande que nous fassions soit forcément pour notre bien. On se dit, mais c'est difficile être disciple de Jésus-Christ. Mais nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et que découvrons-nous lorsque nous faisons cela? Qu'il est digne de notre foi, de notre confiance. Toujours, peu importe le prix pour nous. Le chemin de l'opportunisme, le chemin de faire court-circuit de ce que Dieu nous dit, n'est jamais, jamais le chemin à suivre. Joseph, donc, un homme qui nous encourage à nous confier en Jésus, un homme qui nous encourage à suivre Jésus. Dans un instant, nous allons chanter ce cantique, le Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que nous disons? Dieu Tout-Puissant, roi, serviteur. Il est le roi qui est notre serviteur. Tu nous appelles tous à te suivre. Oui, nous sommes appelés à suivre Jésus, suivre l'exemple de Joseph. Mais à l'instar du fait que nous appartenons à notre Dieu, le roi serviteur, à t'offrir nos corps en sacrifice, à toi l'honneur, roi serviteur. Prions. Si vous voulez bien.
Seigneur, nous voulons confesser d'abord notre besoin de Jésus-Christ. Cet homme béni par toi, cet homme de justice, cet homme aussi de souffrance qui est devenu le roi dont nous avons terriblement besoin. Nous te louons pour Jésus. Te louons que oui, toutes ces années, même avant que Jésus soit venu, nous voyons des indices de Jésus dans la vie de Joseph. Merci pour la richesse et la profondeur de ta parole. Et merci également que Joseph sert pour nous comme exemple, de par nos convictions, de par notre pureté, de par notre foi, d'être des disciples de Jésus-Christ. Donne-nous donc à grandir en tant que disciples. Donne-nous de ne pas penser que tous ces mots ne s'appliquent pas à nous, mais de réfléchir, d'avoir des convictions solides pour que nous tenions ferme contre les attaques de l'ennemi. Sois avec nous, Seigneur, nous te prions, au nom de Jésus. Amen.